Alors, ce matin, je vais commencer avec une histoire. Je vais commencer et démarrer avec une confession. Comme ça, vous savez qui on est vraiment. Et ça va donner un peu de contexte à ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Quand nous avons acheté notre première maison, c'était il y a très longtemps, on était très jeunes et pas forcément très sages. Et nous avons acheté cette maison et c'était un chantier. Il fallait vraiment tout faire. Et parmi d'autres travaux, on a dû refaire l'installation électrique. Et parce qu'on était un peu en vitesse, plutôt que dans la sagesse, on ne prenait pas toujours le temps de couper le courant. Oui, j'entendais là. Oui, c'est vraiment pas sage, je ne le recommande pas du tout. Mais quand on faisait des petits bricoles, voilà, c'est vite fait. Donc voilà, on ne va pas aller jusqu'à couper le courant. Et ça se passait bien jusqu'à un jour où Paul a pris un petit électrochoc qui donnait les fourmissements aux doigts. Alors, un homme sage à ce moment-là aurait dit « La prochaine fois, je vais couper le courant ». Mais, parce que, comme je vous ai dit, on était plus dans la vitesse que dans la sagesse, on a continué à faire ce qu'on faisait une deuxième fois. Et Paul prend un petit électrochoc avec les fourmissements aux doigts. Oh, ça va, c'est pas grave. Troisième fois. Et cette fois-ci, ce n'était pas un choix de ne pas couper le courant, c'est parce qu'on avait pris les mauvaises habitudes de ne pas couper le courant. Et cette fois-ci, ce n'était pas un petit bricole dans une prise, mais on tirait les câbles. Et donc, il y a un câble, et Paul, il prend une poignée de câbles, comme ça, et il tire, et il prend 240 volts. Et le problème, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quand vous faites ça, en fait, vos muscles ne répondent plus. Et vous ne pouvez pas lâcher. Et j'entends le cri. Et heureusement, c'est vraiment la grâce de Dieu, mais heureusement, parce que c'est une câble qui était haut, pour les tomber. Et le fait de tomber a arraché la câble de sa main. Mais par lui-même, il n'aurait pas pu. Et donc, ce jour-là, il a failli se tuer. Et ce jour-là, j'ai failli devenir veuve à 23 ans. Donc, ça, c'est important pour ce que je vais vous dire maintenant. Donc, si vous gardez une chose de cette prédication, gardez cette image-là, parce que ça va vous servir, j'espère. Et je vous assure que maintenant, à chaque fois qu'on travaille sur l'installation électrique, on coupe, parce qu'on a grandi en sagesse, heureusement. Alors, pourquoi vous raconter cette histoire? C'est parce qu'aujourd'hui, je veux vous parler des conséquences. Et je me suis rendu compte pendant ces derniers mois, à travers ce que j'ai lu, à travers quelques discussions que j'ai eues, qu'on a tendance à sous-estimer combien Dieu déteste le péché. Et nous avons aussi tendance à confondre deux choses. D'un côté, le pardon de notre péché et notre salut éternel, et de l'autre côté, les conséquences aujourd'hui de notre péché. Et on a tendance à confondre les deux choses. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va creuser un peu le sujet. On va prendre comme inspiration Ézéchiel. Alors, dans ce que je vais dire aujourd'hui, tu n'es peut-être pas facile à entendre, mais restez avec moi parce que je vous promets que ça finit bien. Okay. Donc, même si vous passez par les petites déprimes au milieu, il ne faut pas décrocher, d'accord? Parce que le meilleur, c'est pour la fin. Mais avant d'aller plus loin, un petit mot sur Ézéchiel, parce que c'est quelqu'un, on connaît le nom peut-être, mais peut-être on ne sait pas grand-chose sur lui. C'était un prêtre et c'était un prophète. Il a vécu 6 ans à peu près avant Jésus, donc on est bien dans l'Ancien Testament. Et c'était quelqu'un qui était de la même génération que Daniel et Shadrach et Meshach et Abednego. Il y avait quelques années entre eux, mais ils étaient plus ou moins de la même génération. Et comme Daniel et ses amis, il a grandi dans le royaume de Juda. Et puis, comme jeune homme, il avait autour de 25 ans, il a été déporté vers Babylone par le roi babylonien, et je vais essayer de le dire, Nabucodonosor. Okay, c'est la dernière fois que je vais le dire. C'est le roi babylonien, d'accord? Et sur une vingtaine d'années, avec tout ce qui se passait avec l'armée de Babylone et le roi de Babylone, il y avait trois vagues de déportation. Alors Daniel et Shadrach et Meshach, etc., sont partis dans la première vague de déportation. Et Ézéchiel, il est parti dans la deuxième vague. Donc c'était à peu près 8 ans plus tard. Donc ça vous montre combien ils étaient proches en âge. Et les Israélites, ils appelaient ces déportations, ils appelaient ça l'exil. C'est un mot qu'on voit assez souvent dans la Bible, et c'est l'exil. Parce qu'ils étaient éloignés de force de la terre que Dieu leur a donnée. Et pour eux, c'était un exil. C'était pas un choix, c'était pas je vais aller voir ce qui se passe par là. Ils étaient pris de force. Et au début du livre que raconte l'histoire d'Ézéchiel et tout ce que Dieu lui a révélé, Dieu donnait des messages à Ézéchiel qui parlaient du futur proche de Jérusalem. Parce que Ézéchiel, c'était la deuxième vague, mais il y avait toujours les personnes qui vivaient à Jérusalem. Et il y avait toujours un roi à Jérusalem, et il y avait toujours le royaume de Juda. Ça existait toujours. Mais il faut dire que les messages que Dieu a donnés à Ézéchiel n'étaient pas très bien reçus, n'étaient pas très appréciés par les personnes qui vivaient à Jérusalem. Alors, il faut se poser la question, pourquoi l'exil? Alors, peut-être que vous avez une idée déjà, mais 800 ans avant Ézéchiel, donc on est encore plus loin dans le passé, il y avait Moïse. Vous avez entendu parler de Moïse. Et Moïse avait expliqué clairement les fondements, les bases de l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. Et donc, on va regarder Deutéronome 30, 15 à 18. Et c'est Moïse qui explique aux Israélites. Il dit, voyez, je place aujourd'hui devant vous, le peuple d'Israël, d'un côté la vie et le bonheur, et de l'autre la mort et le malheur. Okay? C'est un verset qu'on cite assez souvent. Ce que je vous commande aujourd'hui, c'est d'aimer l'Éternel, votre Dieu, de suivre le chemin qu'il vous trace et d'obéir à ses commandements, ses ordonnances et ses lois. En faisant cela, vous aurez la vie. C'est bien. Vous deviendrez nombreux et vous serez bénis par l'Éternel, votre Dieu. Donc, notez bien, dans le pays où vous vous rendez pour en prendre possession. Okay? Donc, le pays faisait partie de l'Alliance. Mais, si votre cœur se détourne de lui, si vous refusez de lui obéir, et si vous vous laissez entraîner à adorer d'autres dieux et à leur rendre un culte, je vous préviens, dès aujourd'hui, donc on est 800 ans avant Ézéchiel, okay? Je vous préviens, dès aujourd'hui, que vous périrez à coup sûr. Vous ne vivrez pas longtemps dans le pays au-delà du Jourdain où vous vous rendez pour en prendre possession. Okay? Donc, cette idée de pays, c'était compris dans l'alliance avec Dieu. Alors, le péché a des conséquences. Et on voit dans livre après livre après livre dans la Bible que Dieu appelle sans cesse ses enfants à renoncer à leur péché. Il les appelle sans cesse à renoncer à leur refus de son autorité dans tous les domaines de leur vie. Parce que finalement, c'est ça un résumé du péché. Parfois, on met le mot péché sur les actes précis, ce qui est bien le cas. Mais dans son ensemble, le péché, c'est simplement Dieu, je ne te donne pas autorité dans ce domaine-là. Ça peut être dans nos pensées, dans nos choix, dans nos gestes, dans nos paroles, etc. Mais quoi qu'il arrive, c'est le fait que Dieu ne règne pas là. Et ça, c'est le péché. D'accord? Ce n'est pas un acte précis que je fais ou je ne fais pas. C'est ce qui se passe dans ton cœur. Et on sait que Dieu est saint et qu'il ne supporte pas le péché. Et donc, il déteste tout ce qui nous sépare de lui. Parce que forcément, s'il y a du péché, ça veut dire qu'il y a une séparation. Parce qu'on est créé pour vivre en communion avec lui. Et Dieu ne supporte pas. Et le péché crée un mur entre toi et Dieu. Et dans l'un de ses messages qu'il a donné à Ézéchiel à transmettre au peuple, il parle du mur. Il parle de ce mur. Et il y avait pas mal de personnes à Jérusalem qui ne prenaient pas du tout au sérieux ce qu'Ézéchiel disait. Certains responsables du peuple là-bas disaient aux gens qui étaient toujours là, « Non, mais ne vous inquiétez pas, le péché n'est pas grave. Ce que vous faites, ça va. Dieu va vous laisser tranquillement dans votre péché. » Parce que, regarde, il n'a rien fait jusqu'à là. À toi, en tout cas. Peut-être il y a d'autres déportations, mais toi, ça va. Donc, okay. Et voici la réponse de Dieu. Okay. Ézéchiel 13, 10 et 11. Et il parle de ces peuples-là qui disent, oh, c'est pas grave. Quand ils égarent mon peuple, en annonçant la paix, quand il n'y a pas la paix. Ok? Il n'y a pas, c'est pas la peine de dire, oh, ça va aller, quand ça va pas aller. Ok? Ça semble évident, mais c'est ce qui se passait ici. Ils se contentent, j'aime bien cette expression-là, ils se contentent de crépir le mur de péché. Ok? Il y a le mur, on va pas l'enlever, on va juste mettre un petit truc qui fait en sorte que ça soit un peu plus beau. Okay? Donc, ils se contentent de crépir le mur comme un peuple a bâti. Dis à ces gens qui mettent du crépi que le mur tombera. Le mur tombera. Un peu de crépi ne suffit pas. Le mur tombera. Et vers la fin du même chapitre, on est à la fin du verset 22, Dieu il continue à parler aux mêmes personnes et il dit, vous encouragez, on est dans la deuxième partie du verset, vous encouragez les œuvres des méchants, les empêchant ainsi d'abandonner leur mauvaise conduite pour conserver la vie. À cause de cela, voici, vous n'aurez plus de vision mensongère et vous ne ferez plus de prédictions, parce qu'ils prophétisaient toutes sortes de « oui, ça va aller », car je vais délivrer mon peuple de vos griffes. C'est comme ça que Dieu décrit les personnes qui disaient que ce n'était pas grave. C'est les griffes, c'est les gens qui vous ont pris comme ça. Donc, ce n'est pas bon pour vous. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Alors, c'est-à-dire, en gros, méfiez-vous des gens qui vous disent que votre péché n'est pas grave. Okay? Méfiez-vous de ces gens, parce que ce n'est pas en accord avec ce que Dieu veut vous dire. Et parce que Dieu n'accepte pas ces choses-là, parfois ça veut dire qu'on subit les conséquences. On subit les conséquences. Et Dieu, il laisse faire parfois les conséquences de notre péché parce qu'il sait qu'on a besoin de comprendre. On a besoin de comprendre. Et il espère que ça va nous pousser à rejeter le péché pour revenir à lui. Alors écoutez-moi bien, quand nous sommes en Christ, il n'y a plus de condamnation. Okay? Je ne suis pas en train de dire qu'on va porter ça toute notre vie. Non, il n'y a plus de condamnation comme nous sommes en Christ. Parce que Dieu a mis tout en place pour pardonner 100% de nos péchés. Ça, c'est pas le problème. D'accord? Dieu n'a pas à réfléchir quand vous demandez pardon. C'est pas, ça c'est un peu dur. Je vais pardonner ça ou pas? Non, Dieu il a hâte de le faire quand toi tu as hâte de te débarrasser du péché. Il n'y a pas de « je réfléchis », c'est comme... En fait, il est presque là avant que tu poses la question, parce qu'il voit la disposition de votre cœur. Et ça, c'est super important à souligner. Mais Dieu ne te dira jamais que ce n'est pas grave. Ce qu'il dit, c'est grave, mais j'ai la solution. OK? Donc ça, c'est une distinction qu'on doit absolument, faire. Quand nous sommes pardonnés de Dieu, nous sommes libres des conséquences éternelles de notre péché. Mais ça laisse parfois les conséquences aujourd'hui. Okay? Ce n'est pas que tout est effacé nécessairement des conséquences de ce qui s'est passé. L'apôtre Paul disait, ce qui est bon à savoir, il dit... plus ou moins, c'est version Bini, d'accord? Mais il dit, là où il y a beaucoup de péché, il y a encore plus de grâce. Mais est-ce que ça, c'est une bonne raison de continuer de pécher? OK? Ça, c'est en Romains 5. Mais il n'y a aucun doute sur la grâce de Dieu. OK? Ça, il faut être clair. Ça va, tout le monde est clair? Dans la tête par rapport. Non, je vérifie parce que sinon vous allez déprimer avant que j'arrive à la partie qui est vraiment déprimante. Donc, oui, ça va? Mais, parce qu'il y a toujours un mais, parfois il y a des domaines de notre vie où le péché se règle tout de suite, c'est bien, et on est convaincu de notre péché, le Saint-Esprit a travaillé en nous, on dit Dieu, je te demande pardon, Dieu nous pardonne. Voilà, on ne voit pas des conséquences et c'est génial. Parfois, il y a des conséquences, mais c'est toujours génial parce qu'on est pardonné, donc c'est bien. Plus commun, peut-être, ce sont les domaines de péché dans notre vie où il faut un peu d'aller-retour entre nous et Dieu sur un certain temps, parce que parfois, il y a les choses enracinées et c'est un travail de les faire sortir. D'accord? Donc, mais ce qui compte dans ces situations, ce n'est pas le nombre de fois que tu tombes. Ce qui compte dans ces cas, c'est est-ce que ton envie est de mettre ta vie sous l'autorité de Dieu? Parce que si ça c'est le cas, peu importe le nombre de fois que vous tombez, Dieu vous relève. OK? Dieu vous relève. Et Dieu reste fidèle dans son pardon autant de temps que vous lui demandez. OK? Et puis, il y a un troisième cas, et c'est là où c'est un peu moins réjouissant. Dans certains cas, on a tendance à penser qu'on a encore le temps de régler ça. J'ai encore le temps. Et ce n'est pas urgent parce qu'il y a toujours la grâce qui m'attend. Donc, on va juste continuer un tout petit peu plus longtemps comme ça. Et à un moment donné, je vais régler ça. Mais pas maintenant. OK? Et le problème, c'est que je ne veux pas demander pardon parce que ça signifie que je sais que je dois changer. Et parce que je ne veux pas changer, je ne demande pas pardon. Et ça veut dire que ça continue. Et on voit cette attitude de cœur dans les gens qui habitaient à Jérusalem au moment d'Ézéchiel. Il y avait un avertissement qu'Ézéchiel avait donné. Et voici ce qui se passe, Ézéchiel 12. 27, 28. Et c'est Ézéchiel qui parle là. L'Éternel m'adresse à la parole et me dit, fils d'homme, la communauté d'Israël déclare à ton sujet, la vision de cet homme concerne les jours très lointains. Très lointains. Ce qu'il prophétise est pour beaucoup plus tard. Parce qu'Ézéchiel n'annonçait pas de bonnes choses. Hein. C'est pourquoi, dis-leur donc, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Aucune des paroles que moi j'ai prononcées ne tardera à s'accomplir. Et c'est là ce que déclare le Seigneur éternel. OK? Parce qu'il disait, plus tard, le problème c'est pour plus tard, je continue comme je suis. Parce qu'ils n'avaient aucune volonté de régler le problème du péché. Ce n'était pas qu'ils avaient la volonté, mais ils avaient du mal, c'est que la volonté n'était pas là. Et c'est deux choses différentes. Et le problème, c'est qu'il pensait que Dieu allait attendre encore parce que Dieu est comme ça. Parce que Dieu attend. Et si on regarde en Exode 34, 6 et 7, voilà, deux versets préférés dans toute la Bible. Il, c'est Dieu. Il passe devant lui, c'est Moïse, en proclamant l'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère, lent à se mettre en colère. Mais ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, il ne se met pas en colère. Okay? Mais il est lent à se mettre en colère. Et c'est ça que le peuple de Jérusalem avait capté. Il est riche en amour et en fidélité. Il conserve son amour jusqu'à la millième génération. Il pardonne le crime, la faute et le péché. C'est Dieu qui annonce ça de lui-même. Et puis on a la dernière partie du verset qu'on ne lit jamais, parce qu'on aime un peu moins. Mais ne tient pas le coupable pour innocent. Il punit la faute des pères sur leurs descendants jusqu'à la troisième, voire même la quatrième génération. Et là, on se dit, mais qui est ce Dieu? Est-ce que j'ai vraiment envie de croire en lui? Si ça, c'est son attitude. Okay? Compassion, grâce, pardon. On aime bien chanter de ces choses-là. Mais est-ce que vous avez déjà vu un chant basé sur la dernière partie de ce passage? Oh Seigneur, tu punis les enfants. Non. C'est parce qu'on a du mal avec ça. On a du mal avec ça. Et il est vraiment important de comprendre ce qu'il dit ici. Parce qu'au premier regard, les deux choses ne sont pas du tout cohérentes. Parce que c'est comme si Dieu dit, je suis super gentil, mais tu fais un truc à travers et je vais faire payer tes enfants. Ça, c'est ce qu'on peut comprendre en lisant ce passage-là. Et ça nous laisse avec un gros point d'interrogation. Mais revenons avec moi en Ézéchiel, pour mieux comprendre ce qui est en train d'être dit dans ce passage-là. Dieu, il fait un rappel. En Ézéchiel 20, il est en train encore de parler au peuple par Ézéchiel. Il fait un rappel de son alliance. Il fait un rappel de leur histoire, de leur sortie d'Égypte, de sortie d'esclavage. Il parle aussi de leur attitude à l'époque, qui n'était pas bonne. Révolte, désobéissance. On va créer les idoles, on va louer qui on veut, comme on veut. On va tourner le dos à Dieu. Ça, c'était l'attitude. Et ils ne sont même pas encore arrivés dans la terre promise. Et ils ont déjà mis leur avenir en jeu. Ils ne sont même pas arrivés. Et ils sont en train de faire des choses où Dieu a dit, bah, attention, parce que vous allez perdre la terre promise si vous faites ça. Et Dieu, qui est lent à la colère, il dit, bon, ok, petit électrochoc ici, je pense, parce qu'il faut qu'ils apprennent quand même. Et le petit électrochoc, dans ce cas-là, c'était 40 ans dans le désert. Ça, c'est le petit électrochoc. Ce n'était pas le gros truc. C'est vous devez apprendre que le péché, c'est grave. Et voilà, je ne vais pas vous priver de votre terre promise, mais il y a une conséquence. Et la conséquence, à ce moment-là, c'était le désert. Et donc, ils avaient 40 ans pour apprendre. Et ce qu'on voit dans Ézéchiel 20, il fait un petit rappel. Je vais juste citer quelques éléments de verset, donc ça ne sera pas affiché. Il dit, verset 17, « J'ai eu trop pitié d'eux pour les détruire. » Verset 18, « J'ai dit à leurs enfants, donc c'est les enfants de la deuxième génération du désert, il dit, « J'ai dit à leurs enfants, ne suivez pas les principes de vos pères. » Verset 21, « Mais les fils aussi se sont révoltés contre moi. » Verset 22, cependant, j'ai retenu ma main. Et ça continue. Et ce qu'on voit, c'est, on tourne le dos. J'arrive pas à les détruire. J'arrive pas à faire ce qui est basé dans l'alliance. J'ai retenu ma main. Et dans la suite de l'Ancien Testament, nous voyons que maintes fois, Dieu a limité les conséquences du péché de son peuple. Il permettait certaines conséquences. Il suffit de lire l'Ancien Testament pour voir que parfois, quand ça allait comme ça, Dieu permettait les conséquences de ce péché, mais l'objectif était toujours de ramener le peuple à lui. Okay? Ce n'était pas une punie. C'était revenez à moi. Revenez à moi. Mais il n'a jamais permis la pire des conséquences, ce qui était la perte de la terre promise. Et chaque génération avait la possibilité de briser cette chaîne de conséquences. Chaque génération avait la possibilité de le faire. Et chaque génération pouvait retourner sous l'autorité de Dieu. Et parfois, ça fonctionnait. On voit que ça fonctionnait. On voit la réaction, la réponse du peuple. Et parfois, non. Mais Dieu, il est lent à la colère. Et le peuple au temps d'Ézéchiel ne voulait pas mettre tout sur l'autorité de Jésus. Bah, Dieu. Pour nous, c'est, on pense plutôt à Jésus. Mais il ne voulait pas. Il disait, ah, comme d'habitude, les conséquences sont pour plus tard. Donc, on va laisser nos enfants gérer ça. Là, c'est sympa. Combien d'entre vous qui sont parents sont prêts à dire, bon, écoute, moi, je ne vais pas régler ça en moi. Je vais laisser mes enfants souffrir pour ce que j'ai fait. Mais sérieusement, sérieusement, qui a ça dans le cœur? Mais c'est exactement ça que le peuple à Jérusalem avait dit. C'est, on va pas régler notre péché nous-mêmes parce qu'on sait que Dieu il va plutôt punir plus loin. Sympa, les parents. OK? Et donc, le problème, c'est que Ézéchiel nous dit que les conséquences de cette attitude, c'est le durcissement du cœur. Dur comme la pierre. Ça, c'est l'image que Ézéchiel utilise plusieurs fois. Et Dieu dit plusieurs fois en Ézéchiel qu'il veut que le peuple soit aussi dégoûté par leur péché que lui, il est. Il dit, ça c'est mon cœur pour eux, c'est qu'eux, ils soient dégoûtés par le péché. Et le problème, c'est avec le cœur dur, on commence à être moins sensible au péché. On est moins dégoûté parce qu'on choisit de continuer dedans. Et ça vient d'un refus habituel de tout mettre sous l'autorité de Dieu dans nos vies. Et donc, si on est désensibilisé à la gravité de notre péché, bah forcément, ça ne nous pousse pas à demander pardon. C'est l'une des conséquences du péché. Et le peuple à Jérusalem avait compris cette attente de Dieu, cette lenteur, la retenue de Dieu, comme signe de faiblesse, plutôt que signe de son énorme bonté. C'était, oh non, non, il n'a pas le cœur à faire ça maintenant. Il est faible, comme ça. Et en fait, non. Du tout. Et pour montrer que peu de choses ont changé, dans 600 ans, après ce moment-là, l'apôtre Paul, il fait le même reproche dans le livre de Romains, Romains 2, verset 4. Il dit, « Ou alors, méprises-tu les trésors de bonté, de patience et de générosité déployée par Dieu, sans te rendre compte que sa bonté veut t'amener à changer. Okay? Dieu a toujours préféré que ce soit sa bonté qui nous pousse à changer, plutôt que la punition, les choses qui sont négatives. Mais parfois, on ne lui laisse pas le choix. Et finalement, ce qui s'est passé pour le peuple, au temps d'Ézéchiel, c'est que Dieu a décidé de ne plus bloquer les conséquences de leur péché. Il avait enlevé tous les blocages et l'exil est finalisé. Il y a des milliers de personnes qui sont déportées, le pays est dépouillé, appauvri, et 12 ans après l'exil d'Ézéchiel, il n'y a plus de royaume de Juda, il n'y a plus de roi, il y a plus de manifeste présence de Dieu. On lit que la gloire de Dieu s'est levée au cœur de la ville et est sortie de la ville. Dieu a quitté le pays. Boum. Voilà, vous êtes déprimés maintenant? Et le pire, c'est que tout cela aurait pu être évité parce que tout ça avait été annoncé. Si on regarde en Ézéchiel 6, verset 6, Voilà ce qu'Ézéchiel dit au peuple. Sur toute l'étendue de votre territoire, les villes seront dévastées et les hauts lieux détruits. Mais notez bien, c'est afin que, très important, afin que vos autels soient démolis, que vos idoles soient brisées, anéanties, et que vos encensoirs soient cassés. Tout ce qui était utilisé dans l'adoration des autres dieux. Okay? Il ne reste rien de tout ce que vous avez fait. Et le peuple aurait pu détruire ces choses. Ils auraient pu prendre la décision d'enlever ces choses eux-mêmes. Mais ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu. Et les conséquences, c'est que c'est non seulement les idoles, mais c'est tout ce qui est autour qui souffre, qui est dévasté. Et combien de fois on voit autour de nous, les conséquences étendues, si vous voulez, les dommages collatéraux du péché, peut-être d'une seule personne, peut-être par un petit groupe de personnes. Tu vois, l'infidélité, la violence dans la famille, bah, ça touche beaucoup plus de personnes que la personne qui a péché. Un mensonge annoncé comme ça, mais qui détruit un cercle d'amis. L'avidité, la course après l'argent, qui détruit la société, l'orgueil, le mépris qui empoisonne la personne concernée et qui pourrit la vie des personnes visées. Okay? C'est hyper déprimant parce que les conséquences du péché sont déprimantes. Okay? Je vous promets, ça c'est le fond. Mais il faut qu'on se rende compte de ces choses-là. On ne peut pas prendre le péché et ses conséquences à la légère. Et maintenant, on va passer à ce qui est plus agréable à entendre, parce que je vous ai dit que ça finit bien. Alors, quel espoir, parce qu'on a parlé des conséquences, quel espoir pour ceux qui subissent les conséquences de leur propre péché? Parce que j'imagine qu'on est probablement assez nombreux ici d'avoir subi à un moment donné les conséquences de nos péchés. Et peut-être on subit encore aujourd'hui les conséquences de notre péché. Quel espoir pour ceux, et ça c'est encore plus dur, qui subissent les conséquences du péché de quelqu'un d'autre. Parce que j'imagine aussi qu'aujourd'hui, ici, on est assez nombreux d'avoir subi les conséquences du péché de quelqu'un d'autre. Oui, je pense que ça, malheureusement, ça c'est la vie dans un monde où le péché a bien pris place. Malheureusement, c'est la conséquence. Et ça, c'était exactement le cas pour Ézéchiel, pour Daniel. C'était les hommes justes. C'était les hommes droits devant Dieu. Pourtant, ils se trouvaient en exil. Ils n'avaient rien demandé, mais ils se trouvaient en exil. Sachez que Dieu n'avait pas fini avec les exilés. Il n'avait pas fini. Quand sa présence a quitté le sanctuaire du temple à Jérusalem, ce n'est pas que Dieu s'est barré complètement de leur vie, heureusement. Parce que si on regarde en Ézéchiel 11:16, c'est pourquoi tu diras, voici ce que déclare le Seigneur éternel. Je les ai éloignés au milieu de peuples étrangers. Je les ai dispersés dans des pays étrangers. Moi, j'appelle ça la terre des conséquences. Ce n'est pas la terre promise, c'est la terre des conséquences. Cependant, je serai pour eux, pendant quelque temps, un sanctuaire dans ces pays où ils se sont rendus. La présence de Dieu a quitté le sanctuaire à Jérusalem, car Dieu... Dieu avait décidé de se proposer comme sanctuaire là où les gens se trouvaient. Dans tous ces endroits qui n'étaient pas la terre promise. Et il se décrit au chapitre 34 comme un berger qui part à la recherche. Encore mieux, il parle plusieurs fois d'un renouvellement. Un renouvellement pour tous ceux qui ont besoin dans ce terrain d'exil. Et voici un exemple en Ézéchiel 18. 19 et 20. Il dit, je leur donnerai un cœur qui me sera entièrement dévoué. Je mettrai en eux un esprit nouveau. J'ôterai de leur cœur, de leur être, leur cœur dur comme la pierre. Ça, c'est le cœur qui n'est pas sensible à ce qui plaît à Dieu. Et Dieu dit, je vais l'enlever. Et je leur donnerai un cœur de chair. Ça, c'est le cœur qui sait répondre à Dieu. Afin qu'ils vivent selon mes ordonnances, qu'ils obéissent à mes lois, les appliquent, ils seront mon peuple. Ça n'a pas changé. Et je serai le Dieu. Ça n'a pas changé. Parce que Dieu ne nous abandonne pas dans le pays des conséquences, que nous soyons responsables de ces conséquences ou pas. Ça, c'est important à dire. Il continue à nous chercher, il continue à se laisser trouver par nous si on le cherche. Et certaines, dans le temps, certaines de ces conséquences, peut-être ils vont disparaître, peut-être ils vont s'atténuer, peut-être on va trouver quelque chose de positif dedans quand même. Mais pour certaines de ces conséquences, on doit les vivre avec. Ça ne disparaît pas comme ça. Mais comme Ézéchiel et Daniel et beaucoup d'autres qui ont vécu jusqu'à la fin de leur vie dans le terre d'exil, Dieu les a utilisés incroyablement. Il suffit de lire. Il suffit de lire le livre de Daniel. On a déjà eu des prédications sur ce qui se passait pour Daniel, la fournaise, Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise. On a Daniel avec les lions, avec plein d'autres choses. Le fait d'être dans la terre des conséquences n'enlève pas la possibilité que Dieu a des choses merveilleuses à faire dans ta vie, mais à travers ta vie. Alors, je vais vous raconter juste une dernière histoire. C'est ma dernière confession de la journée. C'est toute fraîche. Il y a quelques semaines, je pensais déjà à ce que je voulais partager aujourd'hui. Et j'avais la tête dans le livre d'Ézéchiel, donc très spirituel. Et Paul m'apporte un courrier officiel. Et je l'ouvre. Avis de contravention. Il n'y a rien comme ça pour casser un petit moment spirituel. Mince. Et je regarde. Et c'est une limitation de vitesse, 50 km à l'heure. Vitesse retenue pour la contravention, 51 km. Conséquence, amende de 90 euros, un point. Et franchement, je suis dégoûtée. Mais dégoûtée. Parce que je me dis, bah, tout ça pour un dépassement d'un kilomètre. Alors, et vous savez, 90 euros, c'est 2 mois d'argent de poche pour moi. Okay, je vais souffrir pendant 2 mois à cause de cela. Et, sauf que non. Quand vous regardez un peu plus attentivement à votre... Qui ici? Allez, on va avoir un peu de confession là. Qui ici a déjà reçu une contravention? D'accord, ça va parce que je me sens beaucoup moins seule dans ma terre de conséquences. Okay? Mais si vous avez déjà reçu une contravention, vous savez qu'il y a la limitation de vitesse et puis il y a la vitesse mesurée. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'ils appellent la marge technique. Ça veut dire qu'ils enlèvent un peu Moi, j'appelle ça la grâce. Eux, ils appellent ça la marge technique. Mais bon. Mais en fait, la vitesse mesurée pour moi, c'était 56 km à l'heure. Donc en fait, j'avais déjà eu mes 5 km de grâce. Mais j'avais continué à pousser. Et ce qui est le plus bête dans tout ça, c'est que j'ai une voiture qui lit les panneaux et qui me donne un avertissement sonore quand je dépasse de 2 km, je pense, la limitation, qui est activée dans notre voiture parce qu'on essaye de respecter la limitation de vitesse. Et je ne sais pas pourquoi, je ne faisais pas attention, j'étais un peu voilà, distraite, je ne sais pas. Mais ce n'était pas intentionnel, mais je n'ai pas corrigé mon comportement. Et j'avais l'avertissement, il y avait les panneaux, tout me donnait les bonnes informations et je n'ai pas réagi. Et maintenant, je suis 90 euros plus pauvre. OK? Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Mais je le regrette. Devant Dieu, il n'y a pas de souci. OK? Dans cette situation-là. Mais les conséquences sont là. Et ce que je veux vous dire simplement par ça, à part respecter les limitations de vitesse, c'est soyons attentifs aux avertissements que Dieu vous donne, que Dieu pourrait nous donner dans notre vie. Ça arrive par la parole, ça arrive par ce que les gens nous disent, ça arrive parfois quand le Saint-Esprit nous fait « ça, dans ta vie, ça ne va pas trop ». Okay? Soyons attentifs. Ne soyons pas contents de laisser traîner le péché dans notre vie. Demandons à Dieu de prendre toute l'autorité dans tous les domaines de notre vie. Prenons le péché très au sérieux, parce que Dieu le prend très au sérieux. Et si nous sommes ses enfants, s'il nous appelle à la sainteté, c'est notre responsabilité d'avoir la même vision que lui par rapport à ce qui se passe dans nos vies. Parce que Dieu veut nous épargner les conséquences parfois terribles du péché. Pour nous, pour notre entourage, pour nos enfants, pour les générations à venir, Dieu veut nous épargner ces conséquences. Et ce n'est pas un Dieu qui aime envoyer la punition ou autre. Il veut nous amener à changer par sa bonté. Mais n'attendons pas trop tard. N'attendons pas que ce soit trop tard pour faire quelque chose. Si c'est trop tard, Dieu ne nous abandonne pas. On l'a chanté ce matin. Il ne nous abandonne pas. Je veux terminer avec un dernier verset. C'est en Joël, qui reprend cette même présentation que Dieu fait de lui-même, mais modifiée légèrement. Et il dit, chapitre 2, versets 13 et 14, « Déchirez votre cœur et non vos vêtements, que votre repentance soit intérieure et pas juste « Oh, désolé Dieu. » Okay? Les signes extérieurs, ça peut être important, mais ce qui compte, c'est ce qui se passe ici. « Déchirez votre cœur et non vos vêtements et revenez à l'Éternel. » Lui qui est votre Dieu, car il est plein de grâce. Il est compatissant et lent à la colère. Il est riche en amour, il renonce volontiers au malheur dont il avait menacé. Qui sait s'il ne se laissera pas derrière lui? Qui sait, peut-être l'Éternel se ravisera-t-il et changera-t-il lui aussi sa ligne de conduite? Qui sait s'il ne laissera pas derrière lui une bénédiction pour que vous puissiez faire des offrandes, des libations à l'Éternel, lui qui est votre Dieu. Même après tout ce qu'on a vu par rapport aux conséquences, qui sait? Parce que Dieu, il est comme ça. Qui sait s'il ne laissera pas derrière lui une bénédiction? Parce qu'il nous aime, parce que nous sommes ses enfants.